Thank you. Non, on souhaite mettre que trois noms.
D'accord.
Suivant l'attribution des places, peut-être effectivement qu'il y aura un suppléant de votre liste.
D'accord. Donc une liste de Renaud Georges, Marie-Daniel Billard et Christophe Vandella.
Très bien. Alors pour la mise en place du bureau électoral, je vous informe que les membres sont les suivants, en vertu de l'article R133 du Code électoral. En secrétaire, Dominique Egalé. En présidence, moi-même. En tant que membre, les deux conseillers municipaux les plus jeunes, donc à savoir Marine Bigot et Joris Renaud. Et les deux conseillers municipaux les plus âgés. Voilà.
Philippe
et Olivier.
Monsieur Perrault et moi-même.
Voilà.
Les plus âgés.
Apparemment.
Bah,
il en faut bien, hein.
Bah, ouais.
Pas de bouchon.
C'est là aussi, pour la
ouais. Comme les plus jeunes d'ailleurs, c'est ça qui est bien.
Donc nous allons faire passer l'urne afin que chaque conseiller procède au vote. Le nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote est enregistré. Donc,
un vote pour soi-même et un vote pour l'un du vote.
Si vous avez un front, vous êtes devant le vote.
Je vais laisser les membres du bureau procéder au dépouillement
sous surveillance des autres.
Je les ai comptés.
D'accord, 23, oui,
23.
Donc, liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1.
liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1, ça va faire 10. Liste 1. Liste 1. Je vous confirme liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 2. Liste 2. Liste 2. Liste 1. Liste 1, 19. Liste 2, 4.
Procéder maintenant au point suivant, c'est la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et je laisse la parole à Sophie Fischer.
Au plus fort reste. Cette commission, elle sert à analyser les marchés de travaux pour des seuils qui sont supérieurs à 5 350 000 euros hors taxes et pour les marchés de fournitures et services, donc pour un montant qui est supérieur à 214 000 euros hors taxes. Donc ça, c'est les montants pour l'année 2020, puisque ces montants sont révisés tous les ans pour le 1er janvier. Ces membres feront également partie de la commission de marché à procédure adaptée, c'est-à-dire les marchés qui sont inférieurs à ces montants quand il est nécessaire de la réunir. Donc je vous propose de procéder à la désignation par vote à main levée, puisqu'on a des listes qui ont été proposées avec des membres titulaires et des membres suppléants, y compris avec des membres de l'opposition. Est-ce que vous êtes pour ?
C'est qui ?
C'est pour. Donc, là, c'est juste pour voter à l'unanimité à main levée.
Oui, okay. Mais excusez-moi, je ne connais pas la liste parce que...
Ah oui, pardon, elle n'est pas dans,
elle
pas
dans le projet.
Donc les titulaires, c'est Émilie Felgerolle, Alexandre Jouette et Olivier Perrault. Et puis en suppléant, Thomas Théillon, Élise Lavoué et Christophe Vambel. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Donc qui est pour?
Christophe.
Donc qui est pour valider la liste telle qu'elle est proposée? On vérifie hein, qui est contre, c'est bon, qui s'abstient. Voilà, c'est bien à l'unanimité. Le point suivant, c'est la composition de la CCID. Et je laisse la parole à Philippe Ferrari.
Alors la CCID, c'est la commission communale des impôts directs. Donc, ses membres donc, se réunissent chaque année en mairie donc, afin de participer à l'évaluation des propriétés bâties et non bâties et au recensement de la matière imposable. Donc, c'est des évaluations qui concourent à l'établissement de quatre taxes locales, la taxe foncière aux propriétés bâties, foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle. Donc, cette commission, outre le maire qui en assure la présidence, est constituée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Ces commissaires sont désignés par la direction des services fiscaux sur une des listes contribuables en nombre double constituées par le conseil municipal. Donc la durée du mandat des membres de cette commission est la même que pour nous, le conseil municipal. Les commissaires donc, doivent être de nationalité française, être âgés de au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Voilà, donc on vous propose qu'il sera proposé au conseil municipal de transmettre la liste suivante. Je ne donne que les noms, prénoms, pas les adresses, vous êtes d'accord? Ludovic Gickel, Isabelle Genovac, Marcel Daguenet, Anne Mouchot, André Namian, Michel Chapelle, Patricia Galli-Campardi, Martine Perth, Gilbert Bolleron, Corinne Bourgeon, Pierre Jacobelli, Alexandre Jouette, Laurence Lelarge, Jean-Louis Carpano, Marie-Danielle Piard, Laurent Bastin, Michel Varillon, Cédric Drevet et Christelle Roussard, Serge Genevet, Karine Pilly-Né-Gerbet, Solange Jacquier, Thomas Théillon, Odette Alexandre, Isabelle Legrand, Michel Lafarge, Françoise Manceau, Christophe Biscara et Philippe Perardel.
Y a-t-il des remarques?
Il me semble que la taxe professionnelle, ça n'existe plus. Elle est citée dans le texte et je pense qu'elle n'existe plus. Alors ça a été en partie remplacé par une sécurité, contribution territoriale, tout ça, mais plus au nom de taxe professionnelle.
Alors, elle n'est plus perçue par la commune.
Comment?
Ok, on vérifiera ça. Y a-t-il d'autres marques? Oui.
Il me semble qu'on pose 24. 32.
32.
24,
c'est bon
plus? C'est bon plus.
32, mais c'est pas, la liste peut être incomplète, elle est incomplète.
Elle est complète.
Ah, il doit y avoir 32 membres, il y en a 29.
Effectivement, il y a un bout du tableau qui a dû sauter.
Elle peut être transmise comme ça aux impôts, mais puis, en fait, potentiellement, il y aura trois autres personnes qui peuvent être désignées par le...
On avait 32 noms, donc
je pense attendez. C'est ma faute. J'ai lu le document de préparation. Parce que c'est la même. Non, j'ai cru que c'était moi.
D'accord. On avait 32 noms, donc je pense que c'est une partie du tableau qui a dû sauter.
Qui sont les trois derniers?
Alors, de mémoire, je ne peux pas vous le retirer. Parce que là, vraiment, les 32 noms, comme ça, la mémoire.
Oui, 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 on peut la donner un complexe.
Après,
je vérifie.
On vous avait proposé, si vous souhaitiez figurer, voilà, c'est tout. C'est envisageable. Hein. Pardon ?
Il y a peut-être des gens dans le public qui devraient y figurer.
Il y en a déjà.
Moi non.
Est-ce qu'on peut voter sur les 29 noms et on complétera un prochain conseil ?
Non, vous préférez qu'on transmette la liste incomplète avec les 29 noms ? Ou parce que quand je vous dis qu'on a trois noms qui ont dû sauter, est-ce que ça vous pose problème si on rajoute ces trois noms-là ? Ou est-ce que vous préférez qu'on valide avec ces 29-là ? Et c'est aussi une possibilité, ma foi, tant pis, on s'excusera auprès des trois personnes.
Est-ce que les trois noms en question, vous les avez quelque part sur un ordinateur là-haut ?
Oui, après, je ne peux pas aller chercher ça maintenant. Honnêtement, je pense que ça va nous prendre un bon quart d'heure, le temps de tout lancer.
Sinon, on pouvait reporter le vote à la fin de conseil, mais bon, ça va aussi pas possible.
Oui, ok.
Si on peut prendre le temps de monter et chercher plus tard.
Oui, mais autant qu'on déroule, parce que faire une interruption là de 10 minutes pour aller chercher trois noms, c'est peut-être pas c'est pas ce que je souhaite. Mais effectivement, on peut, si vous le souhaitez, on peut reporter ça à la fin du conseil, ce qui aura permis aussi au public de poser éventuellement les questions qu'il souhaitait sans attendre le fait. Donc le point suivant, c'est la convention de partenariat Festival Somme en Seine. Et je laisse la parole à Christelle Boussard.
Alors, la commission intercommunale offre événements culturels du Val de Somme regroupe deux communes et œuvre, 12 communes, pardon. 12, pardon. Et œuvre depuis plusieurs années pour le développement de l'offre culturelle sur le territoire du Val de Somme. Et cette dernière a mis en place un festival multidisciplinaire et pluriculturel. Ce festival qui se déroulera à nouveau cette année, en novembre 2020, aura lieu dans les salles des 12 communes partenaires du festival qui accueilleront chacune un spectacle. La programmation est confiée à un comité de pilotage de 9 personnes, 4 élus des communes signataires et 5 personnes référentes de la culture sur le territoire. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention jointe en annexe, ayant pour objet de définir les conditions d'organisation du festival et le montant du concours financier apporté par les 12 communes, fixé à 1 500 € par commune. Il est proposé d'ajouter à la délibération concernant l'article 3, dans le cadre d'un résultat financier négatif de l'événement, chaque commune s'engage à combler le déficit à hauteur de 1/12. La commune précise que suite aux échanges avec le comité de pilotage, il est entendu que les déficits éventuels ne seront calculés que sur la billetterie et n'excéderont pas 1 500 €. Billetterie, je remarque. Oui.
Alors, c'est une convention qui date de l'année dernière, je crois.
L'année dernière.
On était déjà manifesté dans le conseil quand il était passé. Il m'est toujours apparu étonnant que ce soit une contribution, puisque c'est un patrimoine, une contribution qui soit rapportée au nombre des habitants de la commune. En tout cas, c'est une première chose, mais je pense que c'est, vous arrivez pareil, que c'est arrivé au mai dernier. Cette convention, elle vous est arrivée il y a très longtemps, vous n'avez pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc ce que je dis là, ce n'est pas pour objectif de faire quoi que ce soit, mais c'est juste pour partager une discussion entre vous. Donc déjà, il y a cette partie-là qui me paraît toujours un peu bizarre dans cette convention. Et puis j'avais déjà un doute l'année dernière, mais j'ai encore un plus gros doute cette année, parce qu'en fait la grosse modification par rapport à l'année dernière, c'est qu'en fait il y a un prestataire extérieur qui intervient. L'année dernière, il n'y avait pas de prestataire extérieur, c'était la mairie de Toulon qui faisait la banque. Et maintenant, il y a un prestataire extérieur qui est...
La compagnie de théâtre.
Voilà, c'est ça. Et donc qui va se charger de gérer administrativement l'intégralité des choses. Ce qui pose juste un problème, du coup, c'est dans les conditions qui sont financières, parce que... je dis simplement, Christelle a rappelé ce qui se passait dans le cadre d'événements médiatiques, et je suis content que vous ayez mis un cap sur ce montant. Mais ce qui est embêtant, c'est quand même dans le cadre d'un résultat financier positif, le bénéfice sera réparti en baisse des subventions et ou réinvestissement pour l'année prochaine. Cette décision sera prise par l'Assemblée des 12 communes sous proposition du comité de pilotage. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un réinvestissement dans le cadre d'un.
d'un excellent fonctionnement. Je ne sais pas dans quoi on investit. Moi, pour moi, un investissement, c'est quelque chose où on va investir dans quelque chose qui est éventuellement matériel. C'est-à-dire que celui qui va réinvestir matériellement, c'est forcément votre prestataire. Donc, c'est en aucun cas un investissement dans le cadre d'une communauté de communes, si je puis dire, mais c'est un investissement en fait d'un prestataire. Et puis, il y a une deuxième chose qui est embêtante, c'est que malgré tout, cette convention ne vaut que pour un an. C'est-à-dire que rien ne vous dit que l'année prochaine, vous prendrez la décision de changer de prestataire. Et ce qui veut dire que cet argent-là, s'il y a un excédent de fonctionnement, il restera dans les caisses de votre prestataire parce que vous n'aurez aucun moyen de le faire remonter en mairie en lui adressant une quelconque facture de quoi que ce soit. De toute façon, vous ne pourrez pas émettre un filet de facture sur un acte qui n'a pas de fondement. Et donc, ce qui veut dire qu'en clair, tout excédent qui sera lié à ce festival, et j'espère qu'il va marcher, donc j'espère qu'il y aura un excédent, sera forcément dans les caisses de votre prestataire. Parce que vous n'aurez aucun moyen de le faire remonter dans le cadre des 12 communes si jamais vous prenez un autre prestataire l'année prochaine. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez éventuellement créer de la trésorerie chez votre prestataire, et plus vous serez fissé avec votre prestataire sans possibilité d'en changer, puisque de toute façon, vous aurez une trésorerie importante chez lui. Donc, je me pose la question de savoir comment est-ce que ça s'est géré.
Moi, alors, là, par contre, la réponse que je peux apporter, même si je n'ai pas tous les éléments par rapport à la somme qui pourrait être réinvestie, le projet du fait, enfin, le fait que ça soit temporaire pour cette année avec cette compagnie, c'est qu'en fait, c'est vu comme quelque chose à court terme, parce que dans l'idée, ça serait les communes qui reprendraient la main sur l'organisation de ce festival. L'année dernière, quand c'est Couson qui l'a porté, ça a été quelque chose d'assez lourd et de complexe. Donc, pour que le festival puisse continuer, il y a eu un choix de fait pour trouver une compagnie qui soit bien, pour porter le projet, mais c'est du très court terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que ce soit ensuite les communes qui prennent vraiment en charge ce festival.
Donc on est tous bien d'accord que lorsqu'on va voter cette convention, l'intégralité des bénéfices, s'il y en a, resteront chez le prestataire.
Vous voulez investir dans une baisse de subvention.
Mais non, puisque de toute façon, s'il n'est pas renouvelé sur l'année suivante et que c'est les communes qui reportent, le prestataire portera.
Pourquoi vous entendez que c'est vers le prestataire? Pourquoi c'est pas...
Parce que l'argent, vous l'aurez versé.
Oui,
c'est le prestataire qui l'encaisse. Et comment est-ce que vous allez faire pour récupérer?
Alors, on ne connaît pas le contrat avec la commune, par contre. Ça, c'est une convention entre toutes les communes.
Non, c'est une convention également avec le prestataire, puisque le titre de la convention, c'est... La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le théâtre des bords de Saône, qui vient de prestataire, accepte d'être le porteur administratif du festival. Donc c'est bien le contrat qui a lié les communes avec le prestataire.
L'idée avec cette convention et avec ce festival, c'était pas forcément de faire du bénéfice. Enfin, je suis d'accord qu'il faut effectivement éclaircir ce point-là. Mais sur l'investissement fait par les communes, en fait, il n'y a pas de bénéfice à faire.
Mais imaginez que cette année, le festival fasse des bénéfices. Et l'année prochaine, vous décidez de changer de prestataire.
Ouais.
On va devoir à nouveau verser une subvention au nouveau prestataire, alors qu'on n'aura pas récupéré le bénéfice de l'année précédente. Puisque ça restera dans les caisses du prestataire.
Est-ce que déjà un petit peu le cas l'année dernière, mais seulement, comme c'était en caisse de Couson, c'était beaucoup plus simple, parce que de toute façon, il était possible de faire une directation pour le mandat suivant. Donc, voilà, c'est simplement...
C'est important, effectivement, de mettre la lumière sur ce point-là, qui est effectivement un vrai problème. On voit bien que cette convention, telle qu'on nous l'a présentée et qu'on vous la présente aussi, elle est très simple et qu'il y a un besoin de la densifier grandement pour les années à venir, parce qu'on souhaite que le festival se poursuive et qu'il tienne. Et effectivement, vous avez raison de mettre la lumière sur ce point-là, parce qu'il y a quelque chose à éclaircir et peut-être un engagement à redemander du coup aux prestataires. Voilà, dans le cadre d'un...
Et du coup, je me permets juste d'aller jusqu'au bout de la convention, si je peux me permettre. C'est qu'en fait, il y a un truc qui m'est paru assez étonnant. C'est que dans l'article 5, je crois, dans l'article 5, il est notifié qu'en fin de compte, chaque commune s'engage à
à gérer les frais d'accueil des différents artistes. Sur le principe, c'est effectivement quelque chose qui se fait. Mais imaginez que vous ayez une compagnie de 7 chez vous et que l'autre est là, un artiste qui fait un one-man show de l'autre côté, les frais ne sont pas forcément les mêmes. Donc je suis assez étonné qu'il n'y ait pas un système de prorata qui soit fait sur l'intégralité de ce qu'on appelle le catering, la gestion des repas, etc. et qui soit réparti au prorata des 12 communes. Alors puisqu'aujourd'hui on est en principe de la 12e, on peut se discuter, hein, parce que ces cas-là sont partout sur le principe de la 12e, dans la valeur, on peut être tous repartis sur le principe de la 5e, dans la partition des champs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même étonnant également de créer en fin de compte une disparité de répartition de charges sur les différentes communes. C'est une commune comme Poligny qui a aussi beaucoup d'habitants, c'est pas la même chose que de vivre, de recevoir. Je pense que c'est quelque chose également qui doit être mutualisé. Alors une fois de plus, le jeu est à dire qu'il ne faut pas que ce festival se passe, il faut qu'il se passe, que les choses reprennent, et les artistes vont avoir besoin de retravailler. Et je pense qu'effectivement, cette convention a vraiment un très 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 gros besoin de travail, et quitte à expliciter clairement qu'il ne s'agit plus de balancer une convention deux semaines avant un vote, et surtout de ne pas mettre une petite situation de toutes les communes qui n'ont pas encore voté en disant nous on a voté, vous devez voter exactement les mêmes termes. Et je pense que ça, il faudra peut-être être clair avec mes petits camarades qui gèrent ce dossier, de manière à ce que vous disiez que d'ici le mois de décembre ou janvier de cette année ou l'année prochaine, la nouvelle convention soit faite de manière à ce que ce soit vraiment au carré. On n'est pas à nouveau cette discussion la prochaine fois. Parce que là, ça veut dire que le message a fait.
Surtout qu'ils auraient pu aller plus loin, parce que dans l'article 8, c'est bien marqué, dans le cas où la manifestation serait annulée, le théâtre des bords de Monsaune s'engage à restituer les sommes déjà versées.
Mais ils ne pourront pas.
Voilà. Et ils parlent de restituer les sommes déjà versées aux électeurs qui se seraient inscrits à ces manifestations-là.
Oui, mais pas aux communes.
Ils sont obligés.
Oui, mais de toute façon, légalement, une commune ne peut pas faire une facture sur un acte qui n'est pas barré de quelque chose. C'est compliqué. On voit des tarifs de prestation et elle s'appuie sur ces points-là. Et puis il y a un autre point, mais peut-être qu'on parle au moment des délais de subvention, mais peut-être que ça va peut-être se cacher. Enfin,
ok. On a fait le tour des remarques sur ce point. Très bien. Donc on est effectivement d'accord sur le fait que la convention est très légère, qu'elle nous a été transmise très tardivement, et aussi sans doute qu'elle a été remaniée dans des conditions qu'on peut aussi imaginer difficiles pour les agents communaux qui ont travaillé dessus, puisque c'est essentiellement des agents communaux qui ont établi cette convention et qui, comme ici, ont dû faire face à une reprise d'activité, voilà, sans doute compliquée. Je vous propose de voter à main levée sur ce projet de sur l'adoption de cette convention. Donc, qui est pour? Ok, à l'unanimité.
En revanche, je m'en réjouis de bien vous garder dans le télé les différents points qui ont été relevés, oui. De manière à ce que la délibération soit transmise aux autres communes. Enfin, si tout le monde est d'accord sur ces remarques-là, de sorte à ce que les choses puissent être actées et que les choses puissent bouger sur la prochaine.
Peut-être rappeler les points qui ont été relevés. Il y avait la question de la répartition.
Oui, j'écouterai, mais allez-y.
Ouais, donc, il y a la question de la répartition au 12e, la question d'un éventuel réinvestissement et en cas de changement de partenaire. De comment étaient gérés les éventuels bénéfices. Il y a la question qu'on a mis dans la délibération, mais qui n'était pas, qu'on a juste vu dans la délibération, de quel risque est couvert par les communes. On nous a dit que ça se limitait à la billetterie, mais que ça serait bien que ce soit précisé aussi dans la convention.
Et la répartition des charges,
la répartition
des différents artistes en fonction de l'intégralité des communes.
Je vous propose de donner la parole au public. Donc je vous remercie déjà d'être venu. Voilà, si vous avez des interventions, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors on va poursuivre. Donc le point suivant concerne les indemnités des élus. Donc on l'a abordé la dernière fois. fois, on revient dessus cette fois avec une proposition complétée. Alors, je vous rappelle que notre équipe municipale a pour volonté l'exercice de la démocratie participative par un portage horizontal et transversal des responsabilités municipales. Nous vous présentons ci-après un tableau indemnitaire construit collégialement, étant entendu que les élus porteurs d'une délégation seront amenés à travailler en étroite collaboration, avec les adjoints notamment. Le niveau d'indemnité est corrélé au niveau de responsabilité et au temps évalué nécessaire pour l'exercice des missions de l'élu. Vu les arrêtés municipaux en date du 3 juillet 2020 portant délégation de fonction à messieurs Thomas Taillon, Roland Bettinelli, Philippe Perardel et mesdames Sophie Pichon, Sophie Pélisse, Christelle Boussard, adjoint, et à madame Dominique Gallet, madame Anne-Françoise Gibert, madame Valérie Perardel, madame Élise Lavoué, monsieur Vincent Vanonde, monsieur Joris Renaud, madame Stéphanie Faure, madame Émilie Felgerol, madame Marine Bigot, monsieur Gérard Bertin et monsieur Alexandre Jouette, conseillers municipaux délégués. Il est proposé au conseil municipal de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme suit, donc en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Je ne vous rappelle pas tout le tableau, peut-être pas nécessaire. Donc il est précisé que le versement des indemnités prendra effet à la date de transmission en préfecture des arrêtés de délégation et que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Enfin, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal et que la présente délibération et le tableau annexe seront transmis aux représentants de l'État. Voilà. Je vous précise également que la délibération telle que vous la présente là a été déjà visée par la préfecture afin de s'assurer cette fois de la conformité totale de cette délibération. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Perrault.
Oui, donc je ne comprends pas que les délégations soient toujours aussi peu précises et détaillées comme elles devraient l'être. La plupart tiennent en un ou deux mots et ne présentent aucune limitation tant sur les sommes que le délégataire est susceptible d'engager sur la fonction déléguée en elle-même. La jurisprudence du Conseil d'État sur ce sujet est abondante. Une délégation vague et imprécise ne peut pas comporter indemnité. C'est le cas, par exemple, pour une délégation qui indiquait succinctement « suivi des travaux dans les quartiers », très proche de la délégation de M. Bertin, qui est « suivi de chantier ». C'est quasiment la même chose. En outre, un arrêté qui ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée est également illégal, comme par exemple un arrêté qui donnait délégation de délivrer les alignements et permissions de bâtir sur les rues, places et autres voies communales. Cette règle est faite également pour protéger les délégataires de poursuites ultérieures en fixant des limites. La délégation de Mme Gallet, par exemple, lui permettrait de signer un bon de commande pour le minibus de 20 places qui est indiqué dans vos propositions, et ce, quel que soit son prix, tant qu'il est en dessous du seuil des marchés publics. Je vous rappelle que les décisions prises tant par le maire que par les adjoints en vertu des délégations données par le conseil municipal, qu'on a voté au dernier conseil, doivent être consignées dans le registre des délibérations du conseil municipal, et non pas ailleurs, de manière à ce qu'on puisse les vérifier à chaque conseil municipal, puisqu'elles doivent être classées par date. Et puis, pour terminer, je m'étonne qu'il n'y ait aucun adjoint délégué à la sécurité ou au développement économique et commercial, mais je suppose que cela ne fait pas partie de vos préoccupations, et c'est tout à fait votre choix et votre possibilité.
Alors, en l'occurrence, le développement économique et la sécurité sont des thématiques qui sont portées par moi. Donc, pour vous dire l'importance qu'on y accorde.
Eh bien, j'aurais aimé vous voir au Cité hier soir.
À quelle occasion, M. Perrault ?
À l'occasion de heures, de coups de gueule, de ça a bien duré pendant une heure et demie. De gens qui se sont tapés sur la gueule, de gens qui font des trafics bizarres.
Pour y aller, encore aurait-il fallu que j'en sois informée. En l'occurrence, l'astreinte n'a pas été appelée pour intervenir. Et puis, il me semble que, pour le coup, ce que j'entends par sécurité, ce n'est pas me substituer aux forces de l'ordre. Donc, effectivement, je n'y étais pas. Voilà. Et je n'en étais d'ailleurs pas été, je n'en étais pas informée. Concernant donc toutes vos remarques sur les libellés des délégations que nous proposons, donc la seule réponse que je peux vous faire, c'est qu'elles sont conformes à la législation, c'est pour ça qu'on vous les présente. Ce projet a été travaillé avec des juristes et a été aussi soumis au contrôle de légalité de la préfecture qui nous a confirmé sa validité. Donc partant de là, nous n'allons pas revenir dessus. Voilà, je vous propose de procéder au vote. Donc, qui est pour, le tableau tel que nous proposons ici? Je laisse compter. Non, vous comptez. Faites la soustraction. Ok. Qui est contre? Très bien. Qui s'abstient?
3.
Moi, je suis pour le tableau, je suis contre les délégations, le principe des délégations, mais le tableau me convient parfaitement.
Très bien. Le point suivant est celui des subventions. Donc, je donne la parole à Sophie Périssé.
Donc, on va commencer par la subvention du CCAS. Il est proposé de verser la subvention de 20 000 euros prévue et votée au budget 2020. À ce jour, le travail sur le budget du CCAS est entamé et en cours. Voilà pour le CCAS.
Ok. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Jean.
Oui, en ce qui concerne le budget du CCAS, sur le dernier mandat, nous avions récupéré un CCAS avec, vous appelez ça un trésor de guerre, c'est-à-dire environ 60 000 euros, qui est une somme importante quand on voit les subventions annuelles qu'on lui verse. Nous avions donc décidé au fur et à mesure de réduire ce montant de ces subventions pour en arriver aux alentours de 20 000 euros. Ça passera encore cette année, l'année prochaine moins. Soyez simplement attentifs lors de vos futurs CCAS de préparation budgétaire. Normalement, après, ça ne passera plus. Vous serez obligé de remonter la subvention probablement, et c'est normal, avec un CCAS qui conserve un matelas a priori raisonnable. Vous aurez besoin de voir.
Tout à fait, on l'a vu dans l'étude des finances. Y a-t-il d'autres remarques? Très bien, donc qui est pour? L'unanimité. Donc la coopérative de l'école maternelle.
Alors la coopérative de l'école maternelle, donc il est proposé de verser une subvention de 3 200 euros prévue au budget 2020. Donc cette subvention elle correspond à deux actions qui ont été réalisées cette année à l'école maternelle. Donc première action, c'est dans le domaine de l'apprentissage, agir, s'exprimer et comprendre à travers l'activité artistique. Donc les enseignants ont fait intervenir un musicien diplômé dans toutes les classes sous forme de séances hebdomadaires, donc 3h30 pour toutes les classes du mois de novembre au mois d'avril. Donc Madame Blanche Trapazon a précisé que vu la crise sanitaire, il y a eu deux séances qui n'ont pas été réalisées au mois d'avril, et le spectacle qu'ils devaient faire qui n'a pas non plus été réalisé, mais ils ont quand même payé l'intégralité de l'indemnité à la dame qui est venue faire les cours de musique. Et le deuxième projet, c'est dans le domaine d'apprentissage explorer le monde, c'est la location d'un poulailler et de poules sur toute l'année scolaire. Donc ça correspond à la subvention qu'on propose de verser de 3 200 euros cette année.
Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Georges.
Alors, en ce qui concerne la coopérative, ou plutôt les coopératives de l'école maternelle et de l'école élémentaire. L'école maternelle et l'école élémentaire, dans l'ensemble des actions qu'ils font, ont différentes sources de financement. Le sou des écoles est une partie importante de ce financement. La commune en est une autre. Et puis, ils peuvent avoir des actions personnelles qui leur amènent un peu d'argent. On avait été un peu surpris en cours de mandat de s'apercevoir à un moment donné qu'on avait une subvention à verser pour un projet qui concernait à faire non pas une classe verte mais toutes les classes vertes pour l'école élémentaire et où ça n'avait posé absolument aucun souci à l'école élémentaire pour subventionner de façon très très forte et par le biais notamment de sa coopérative ces actions-là. Ça nous avait interrogé à cette époque-là, mais nous n'avions pas approfondi plus que ça la réflexion. On avait l'intention de le faire peut-être plus tard, donc je tiens simplement à le signaler parce qu'aujourd'hui, quand on verse des subventions à des associations, en tout cas jusqu'ici, on demandait un certain nombre, nous, de justificatifs, vous verrez bien ce que vous en faites, vous, de votre côté, afin que l'argent public soit versé à des gens et à des associations qui en ont véritablement besoin pour des projets qui le méritent. En ce qui concerne la question coopérative, on n'a jamais regardé de plus près ce qu'il en était. Les justifications sont simplement demandées, apparemment vous faites de même, sur les projets qu'ils portent, et donc peut-être des devis qu'ils vous soumettent, ou ce genre de choses. Mais pas du tout sur l'état financier des coopératives en question. Or, il semblerait qu'il y ait vraiment matière à regarder un petit peu, parce que, il semblerait-il, les coopératives ont un peu d'argent, et même plutôt pas mal. Donc, en toute logique, il faudrait qu'on fasse la même chose qu'avec les différentes associations. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Il s'agit simplement, non pas de mettre quiconque en accusation, mais de regarder une situation pour que la transparence soit absolument totale sur tous les projets de coopérative et leurs moyens de financement.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ?
Il me semble que les coopératives présentent leurs comptes au conseil d'école chaque année.
Oui. Donc, je vous propose de procéder au vote. Qui est pour ? Ok, à l'unanimité. Donc, concernant la coopérative de l'école élémentaire.
Donc, il est proposé de verser une subvention de 1 850 € prévue au budget 2020. Alors là, pour l'école élémentaire, ça correspond à trois projets. Donc, il y a un premier projet, c'est une correspondance incorruptible. Donc, en fait, c'est un projet où les élèves vont lire des livres, vont partager, vont avoir un échange avec un auteur. Et à la fin de ce projet, ils vont voter pour le livre qu'ils ont préféré. Aussi le défi classe énergie. Donc ça, c'est un projet. Donc défi classe énergie, il me semble que défi classe énergie a fait son projet sur toute l'année autour de l'énergie et en lien avec l'ALEF. Donc il y a eu des interventions. Ensuite, il y a eu un projet, il y a deux projets qui n'ont pas été réalisés entièrement, mais déjà il y a une visite au collège pour les CM2 qui n'a pas pu avoir lieu. Les tickets de TCN ont été achetés. Donc ce sont des tickets dont les enseignants vont pouvoir se resservir l'année prochaine. Et un dernier projet autour de la sécurité routière, pour finir un cycle de vélo qui a été mis en place. C'était les classes de CE1 qui devaient se rendre pour quelques jours à Oulin pour mettre en pratique sur une piste routière avec des vélos et des véhicules et l'apprentissage vu par les élèves. Ça, c'est un projet qui n'a pas été réalisé. Après, il y a un autre projet, une visite comté de Lyon, qui n'a pas non plus été réalisé, mais où les enseignants ont déjà versé un acompte qui ne pourra pas leur être remboursé. Donc, on leur a proposé de prendre dans la subvention qu'on va leur donner pour rembourser cet acompte qui ne sera pas remboursé dans leur vie. Voilà.
Y a-t-il des remarques ?
Oui. Une question. Daniel, ils se font payer pour intervenir dans les écoles ?
Oui. Normalement, il y a des dossiers qui sont faits. Les dossiers qui sont envoyés en fin d'année scolaire et avec qui sont budgétisés, etc.
Donc on peut procéder au vote. Qui est pour? Dernier point, le festival Saône en Seine.
Donc pour le festival Saône en Seine, il est proposé de verser une subvention de 1 500 € prévue au budget 2020. Et bon, l'accord moral avait déjà été donné auprès des organisateurs. Je propose de maintenir cette subvention.
Donc y a-t-il des remarques?
La seule remarque que j'ai, c'est que je ne sais pas comment est-ce que ça se joue avec la trésorerie quand ça va être mandaté. Parce que ça va être mandaté avec la fonction de la convention qui va être à côté. Le destinataire, ce n'est pas une personne morale, le festival. Donc ça va aller chez le prestataire, qui est une association, qui n'est pas une commune, alors qu'avant, c'était une commune. Donc je ne sais pas comment est-ce que la ville doit être tournée de manière à ce que ça passe en mandat de choix, au niveau de, enfin, en mandat au niveau de la trésorerie, si c'est simplement sur le principe de la convention qui a été votée avant et considère que c'est le prestataire et donc ça va être directement dessus, ou est-ce qu'il faut voter une subvention directement à l'association, puisque c'est l'association des incendies, pour pas que ça se passe retoqué, parce que ça serait des fins de choc. J'ai pas la réponse. Hein.
Oui.
De toute façon, on va voter la délégation qui est là, mais si jamais la trésorerie rejette ce mandat, il faudra reboter le
versement.
Le versement à l'association et non pas.
On pourra voir ça du coup avec les autres communes qui ont déjà fait ça.
Alors on peut rajouter dans la délibération, au lieu de mettre festival sous en scène, mettre association. Blabla pour le festival. Oui, sur les scènes.
De manière à la consultation, ça ne passe pas en côté parce que
ce sera plus sécurisé.
Il faut mettre le nom de la personne morale qui va percevoir les fonds, donc
c'est
le nom de l'association.
Donc on procède au vote. Qui est pour? Ok, à l'unanimité. Et donc le point suivant concerne la création d'un poste de direction des services techniques et catégorie B. Et vous, Sophie Pichon, je te laisse présenter.
Actuellement, les services techniques de la mairie s'organisent avec donc la DGS ou le DGA. Cette organisation ne permet pas un bon suivi au quotidien de ce que doivent faire ces agents. Donc il s'agit des agents d'espace vert, bâtiment, également entretien. Et donc le niveau intermédiaire d'encadrement devient nécessaire pour justement assurer cette pérennité en termes de conduite et d'entretien du patrimoine. Il manque également un cadre du coup, qui assure les tâches un peu administratives que sont notamment la recherche de prestataires, les achats, les bons de commandes, des choses un peu plus administratives que les agents techniques ne sont pas en capacité de faire et que le DGS ou le DGA n'ont pas le temps non plus forcément d'assurer, parce que le patrimoine, c'est, comme le disait M. Perrault à la dernière commission, c'est très preneur de temps. Considérant ces choses-là et le départ à la retraite en fait d'un agent technique qui est expérimenté en janvier 2021, donc expérimenté, ça veut dire qu'il est sur le dernier grade en général de sa grille indiciaire, et donc il a une rémunération aussi importante, puisqu'on va changer de catégorie d'emploi, et donc la personne qui serait susceptible de prendre ce poste de chef de service, de direction des services techniques, sera en catégorie B. Il faut noter qu'on a valider l'organigramme avec un directeur des services techniques au comité technique du 23 juin 2020, puisque c'est une obligation avant de créer un poste. Cette délibération, en fait, on vous propose donc de créer un emploi permanent pour satisfaire aux besoins de direction des services techniques et que cet emploi donc peut être assuré par un agent du cadre d'emploi de technicien territorial. Les crédits nécessaires, on a vérifié, sont inscrits au budget de la collectivité. Donc on propose au conseil municipal de créer un emploi permanent de technicien territorial, c'est-à-dire de catégorie B à temps complet, de dire qu'à ce titre, l'agent affecté à cet emploi sera chargé d'exercer les fonctions définies précédemment et que son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade de technicien territorial. De dire le cas échéant que l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article du 23.3 du 26 janvier 1984, puisqu'on est dans la fonction publique territoriale et donc il faut privilégier d'abord les emplois de fonctionnaires avant les emplois de contractuels. De dire que l'agent bénéficiera par ailleurs du régime indemnitaire en vigueur dans la commune, donc on délibérera plus tard sur ce régime indemnitaire. Et d'autoriser donc Madame la maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, d'accomplir l'actualisation du tableau des effectifs et de procéder au recrutement.
Y a-t-il des remarques?
Dans cette commune, depuis plusieurs années, on a deux agents de service technique proprement dit, deux agents au service espace vert. Donc ils tournent à quatre, avec des arrêts maladie, avec etc. etc. Il n'y avait pas de responsable des services techniques au sens où vous l'entendez, puisque cette fonction était assurée par le directeur général des services ou bien son adjoint et beaucoup élus. Demain, vous dites que vous souhaiteriez recruter un catégorie B pour encadrer un service qui ferait finalement combien de personnes? 1 plus 3 ou 1 plus 4,
3 plus 4, donc plutôt 7, puisqu'il y a les personnels d'entretien également.
Mais au niveau des services techniques et des services espaces verts, on aurait au final 4 personnes, un chef et 3 qui vient donc embaucher quelqu'un parce que
celui qui va encadrer les services techniques. En fait, il y aurait toujours 4 personnes puisqu'actuellement ils ne sont pas tout à fait 4, ils sont plus puisqu'il y a un CDD supplémentaire actuellement qui vient en complément d'un temps partiel thérapeutique.
D'un arrêt de travail.
Mais c'était un remplacement d'arrêt de travail. Donc, la question est au final que les services techniques et espaces verts, ils resteront 4 au final.
Oui,
même si l'un encadre les 3 autres, l'un en question continuera à bosser sur les services techniques, sur les services espaces verts pour des tâches opérationnelles.
Oui, c'est ça.
C'est la question.
Donc je vous propose de procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Alors, l'avant-dernier point est la formation des élus. Donc, considérant la volonté de la municipalité de permettre à ses élus d'exercer au mieux les missions qui leur sont dévolues dans le cadre de leur mandat, considérant qu'il revient au conseil municipal de fixer dans les limites prévues par le CGCT les modalités d'exercice du droit à formation de ses membres, d'en déterminer les orientations et de prévoir les crédits ouverts à ce titre. Je vous propose de voter les modalités d'exercice du droit à formation des élus suivant les propositions ci-dessous. Donc, article 1. Le conseil municipal décide d'instaurer les conditions nécessaires à l'application du droit à la formation des élus au sein de la collectivité. Article 2. Le conseil municipal décide d'arrêter les grandes orientations du plan de formation des élus et les modalités d'exercice de ce droit, conformément au règlement intérieur de formation joint en annexe. Et article 3. Le conseil municipal décide d'imputer chaque année au budget de la commune les crédits nécessaires à l'exercice de ce droit. Y a-t-il des remarques? Monsieur Perrin.
Oui, en fait, je voudrais juste faire remarquer que il y a une obligation, en dehors, là on parle de droit à formation, mais il y a également une obligation de formation pour tous les conseillers et les adjoints, à tous les conseillers qui ont une délégation, et les adjoints, durant la première année du mandat. Donc, il y aura forcément à prévoir sur cette année 17 formations pour les 17 élus délégués. Et donc, forcément, ça va opérer le reste des possibilités. Voilà, c'est juste une remarque. Parce que là, on parle du droit à la formation, mais la formation obligatoire doit être également incluse dans cette enveloppe qui représente au maximum 11 000 euros, à peu près, hein, si je calcule bien. Et donc, il faudra, sur la première année, enlever donc, ces 17 formations obligatoires.
Sur 12 mois, on est à cheval 2020-2021.
Alors, dans les textes, c'est la première année du mandat, c'est-à-dire c'est la première année, est-ce que c'est l'année civile ou l'année...
On espère que c'est les deux. Que ce soit la deuxième, que ce soit les 12 mois. Comme ça répartira la charge sur les deux années. Parce qu'on peut faire
pour le comité. Et il y aura des formations groupées
aussi. Oui, mais c'est en plus. Mais l'Association des maires de France, elle fait même, carrément, elle propose même de faire des formations sur site avec tous les élus. Donc c'est au lieu de payer des déplacements pour tout le monde, on fait payer des déplacements pour une seule personne.
Puis je voulais rajouter aussi quand même qu'il y a le DIF qui permet aussi de répondre à l'obligation de formation. Donc vous en bénéficiez en tant qu'ancien élu jusqu'à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Et nous, on va commencer à en bénéficier à partir de janvier. Donc il y a une partie de nos formations obligatoires qui peuvent aussi être prises sur ce crédit qui n'impacte pas les crédits de la commune.
Mais qui sont des formations autres que les formations nécessaires à la bonne gestion des deniers publics. Ça, c'est pas le. C'est si on veut prendre des cours d'anglais ou des cours de.
Pas seulement. Non, le DIF élu est quand même assez cadré aussi. Hein. Justement, il faut qu'il y ait un lien avec l'exercice du mandat aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, on peut procéder au vote. Qui est pour? Ok, à l'unanimité. Et le dernier point concerne donc la modification du RUSEP suite à l'adoption précédemment de la création d'un poste de technicien territorial. Donc le RUSEP est un outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique. Mis en place en décembre 2018 dans la commune, il se compose de deux parties. Une indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, IFSE, qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose d'une part sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. Une deuxième partie, qui est un complément indemnitaire annuel, le CIA, tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Considérant la création d'un poste de direction des services techniques catégorie B, considérant que la délibération initiale relative à la mise en place du RIFSEP numéro 2019-48 n'incluait pas le cadre d'emploi de techniciens territoriaux, il est proposé au conseil municipal d'ajouter dans la délibération 2019-48 relative à la mise en place du RIFSEP la ligne suivante. Les cadres d'emploi concernés par le RIFSEP au sein de la collectivité sont les attachés territoriaux, les rédacteurs territoriaux, les animateurs territoriaux, les adjoints d'animation, les adjoints administratifs, les adjoints du patrimoine, les adjoints techniques, les ADSEM et les techniciens territoriaux. Y a-t-il des remarques? Donc on peut procéder au vote. Qui est pour? Donc adopté à l'unanimité.
Madame le maire.
Oui.
On pourrait avoir une abstention pour aller une interruption pour aller chercher les trois noms de la CCID.
Oui, alors juste, je vais terminer avant sur un dernier point qui est un point d'information. Sur une action en justice. Donc il y a eu un jugement au tribunal administratif de Lyon le 25 juin 2020. Donc, à savoir qu'en avril 2016, la commune a résilié au motif d'intérêt général un contrat qui portait sur l'acquisition en avril 2012 de matériel informatique. Donc, la commune demandait le remboursement de sommes indues par la société loueuse qui n'a pas pu prouver avoir facturé à cette époque et mis à disposition le dit matériel, à savoir 4 postes informatiques et 2 serveurs, notamment un dont on n'a pas vraiment trouvé la trace.
La société loueuse condamnée à verser, a été condamnée à verser 62 071,14 € de remboursement de loyer indu entre avril 2012 et avril 2016. Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de novembre 2016. La société loueuse a la possibilité de faire appel de ce jugement jusque fin août et nous saurons alors si cet argent pourra enfin revenir à la commune. Parallèlement, donc les élus concernés par cette affaire ont fait appel du jugement correctionnel dont ils avaient fait l'objet en mars 2019 et donc une prochaine audience aura lieu soit fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà les informations que je peux vous donner. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Georges.
Bon, cette affaire, c'est l'affaire locale. C'est le fruit de 4 années de travail, donc on ne peut que se satisfaire du résultat tant que la société n'a pas fait appel. Juste pour votre information, il ne s'agit pas de 62 071 € comme bénéfice au final pour la commune, mais de plus de 80 000 €, puisque nous avions décidé il y a 2 ans, face au prestataire, d'interrompre de façon unilatérale le contrat, et donc de ne pas verser 5 mensualités pour un total de 20 648 €. C'est-à-dire que on devrait, je l'espère, au final, voir une rétrocession globale, totale, de plus de 80 000 €. Ça, c'est le premier point. Le second point, je vais parler de la partie correctionnelle, parce qu'effectivement, nous avons, nous, attaqué le fournisseur, mais le procureur de la République, au regard de ce qui s'était passé, avait décidé de mettre en cause les anciens élus. Et il y avait donc des décisions qui avaient été prises dans la matière. Je passe sur les décisions d'inéligibilité, voire pire, mais il y avait également un montant qui était à restituer de leur part qui dépassait les 100 000 €. Normalement, les montants que vous annoncez aujourd'hui viennent en déduction de ces montants que nous devraient les anciens élus. Donc ma question est un peu politique, j'allais dire. Je voudrais savoir quelles sont vos intentions en ce qui concerne l'appel qui a été formé par ces anciens élus. Est-ce que vous avez bien l'intention de poursuivre cette action en justice et de ne pas vous arrêter simplement au fait que le prestataire, lui, nous a remboursé une partie de la somme, alors que les anciens élus nous doivent encore davantage? C'est ma première question. Je ne vais pas nécessairement obligé d'y répondre maintenant, parce que peut-être que vous n'avez pas les choses en tête, ou que vous n'avez pas discuté ensemble, mais j'espère avoir une réponse au moins au prochain conseil municipal. Et puis la seconde question, c'est que de l'argent sur le précédent mandat, issu d'affaires de ce type-là, on en a récupéré beaucoup, que jusqu'ici, nous avions toujours consacré cet argent au désendettement de la commune. Le terme de cagnotte arrive parfois en disant, tiens, il y a un chèque qui arrive, on va pouvoir l'utiliser pour faire plein de choses. J'aimerais savoir si vous avez déjà une intention sur cet argent, si jamais fin août, l'OCAM laisse tomber, ce qui m'étonnerait un peu, mais bon, laisse tomber, ne fait pas appel, pour ce raison de chèque. Quelles sont les intentions? Est-ce que c'est plutôt de produire ce chèque et d'en faire du désendettement de la commune, qui en a encore besoin? Ou bien est-ce que vous avez déjà d'autres projets?
Concernant le premier point, sur la poursuite ou pas de cette affaire judiciaire, nous n'en avons effectivement pas parlé collégialement. C'est un point qu'on abordera et effectivement c'est peut-être mieux qu'on vous y réponde une fois qu'on a eu ce débat en interne. Voilà, je pense que ça sera un débat assez clair et rapide, mais je préfère, même si je pense que nous sommes absolument tous sur la même longueur d'onde, ne pas trop m'avancer vis-à-vis de mes colistiers ce soir. Sur le second point, d'ailleurs sur le premier point, on n'a pas parlé de bénéfices pour la commune. C'est des sommes, des loyers indus qui vont être rétrocédés. On l'a bien présenté comme ça et compris comme ça. Concernant l'affectation de ces fonds, nous prenons connaissance du budget de la commune avec une lisibilité qui n'est parfois pas celle qu'on souhaiterait. Et donc c'est vraiment difficile aujourd'hui de dire à la fois comment on pourrait réaffecter cette somme-là et aussi de dire quels seraient nos prochains projets. notamment les travaux de l'école ne sont pas terminés, on ne sait pas encore au final combien on aura à payer sur ces travaux-là. Donc là aussi, c'est difficile de vous répondre aujourd'hui. Est-ce qui. Voilà. J'espère que j'ai répondu suffisamment. Oui, monsieur Perrault.
Une réponse de prudence, elle me va bien.
Je voudrais apporter une petite précision, parce qu'en fait, une petite précision chiffrée. L'affaire là, qui se termine en principe, sauf s'il y a appel, je pense qu'il y aura, mais de toute manière, on gagnera en appel, puisque enfin, je suis allé au tribunal pour l'audience, et bon, le rapporteur public était catégorique, il n'y avait aucune défense possible. On va dire. Sur cette affaire, c'est qu'en fait, on est sur 87 306 euros, d'accord, donc on a en récupéré 65 000, et il y a 20 000 euros que nous n'avons pas versés. Cette affaire, elle concerne la location de serveurs, on va dire, là, vous voyez, l'achat avec option d'achat de serveurs, qui a eu lieu, a été fait en 2012. Et l'autre affaire, en fait, concerne deux affaires identiques, cette affaire de 2012 et une affaire qui date de 2010, la même, l'achat également d'un serveur, pour 53 432,47 euros. C'est-à-dire que la somme de 101 000 euros auxquels ont été condamnés l'ancien maire et son adjoint aux finances correspond au premier contrat de 53 432 euros qui était prescrit, puis on n'avait pas la possibilité d'attaquer au TA. Par contre, on avait encore la possibilité de se porter partie civile sur la partie correctionnelle. Et donc, il y a donc 53 432 euros qui correspondent en fait à ce qui s'est passé en 2010, au contrat de 2010. Et ensuite, il y a les sommes que nous avons versées, donc les 65 000 euros, qui correspondent au contrat de 2012. Et donc, comme la première affaire concerne les deux contrats, puisqu'il y avait possibilité de le faire, c'est-à-dire que la somme en réalité qui pourrait être imputée au précédent sur la présente affaire, c'est la somme de 53 432 euros et 47 centimes. Donc, pas exactement la déduction de 65 000, voilà. Donc, il y a une affaire qui concerne deux contrats, et l'affaire qui a été jugée récemment n'en concerne qu'un seul.
Et si les choses n'avaient pas été prescrites, ça aurait concerné encore plus d'argent.
Puisqu'il y a eu la même chose en 2008, en 2007, en 2005, tous les deux ans à peu près.
Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir ou d'autres remarques? Je vous propose donc, non pas de lever la séance, puisque vous m'avez demandé, d'aller chercher. Alors, il m'est revenu deux noms, mais il me manque le troisième. Donc, dans les deux noms qui me sont revenus, on a M. Jacques Lepelletier, voilà, et Mme Sylvie Montillet. Mais encore un dernier nom de nom, est-ce que vous avez. Donc ça doit être dans les notes en haut. Oui, on peut interrompre la séance.
Du coup, j'ai des
Et il nous fait même la grâce de nous prêter ses chiens.
Les deux chiens qui traînaient cette semaine et qu'on a gardés dans la commune, dans la mairie, c'était quand jeudi hier matin, lui appartenaient.
Mais.
Voilà. Pas entendu, mais il a même lâché. Ces deux chiens se sont sauvés et ils ont traîné pour le
coup. Ah, parce qu'il y a pour moi, quand j'ai eu le courage de venir les récupérer,
ah non,
pour les
passer en France. Non, il n'a pas eu ce courage-là. Il a envoyé quelqu'un.
Et ah ouais. Nous avons pris un arrêté pour interdire le stationnement de 22h à 5h du matin. Régulièrement, il enlève l'arrêté qu'on affiche. Mais en tout cas, l'arrêté a été pris. Nous sommes aussi en lien avec la gendarmerie, justement, pour qu'il procède à une verbalisation.
Et il faudrait aussi que vous passiez l'arrêté d'interdiction de stationnement sur la route, sur les S, de manière à ce que ça interne que les gens ne se perdent pas à cet endroit.
Et pour poursuivre au chapitre délinquance, il y a un truc qui me hérisse le poil depuis bien un mois. C'est à l'entrée de la rue du Lavoir. Il y a un graffiti sur le panneau qui indiquait au départ interdit aux chiens, donc je trouve limite. Maintenant, il y a écrit interdit aux cons. Je trouve pas ça terrible sur la commune. Voilà, donc ça serait pas mal d'aller l'effacer. Ça donne un petit côté un peu. Enfin, c'est désagréable. À chaque fois que je passe devant, j'ai pas l'impression d'être à Saint-Jean.
Et c'est sur un panneau.
Sur un panneau. Le panneau où il y a écrit interdit aux chiens.
Juste
à l'entrée de la rue du Lavoir.
Ok. Et c'est un truc que je n'ai pas encore regardé. À un moment donné, les communes avaient des conventions pour trouver les tags. Ça existe toujours, ça? Non, ça n'existe plus.
Pour enlever les tags, il faut trouver la bonne société. Malheureusement, c'est qui marche assez bien dans la Val-de-Saône à déposer des gens parce que sa société s'est classée à la qualité. Et ensuite, il faut à chaque fois que c'est un tag qui est fait sur une partie privative, il faut aller signer une convention avec le propriétaire en lui demandant. Alors, il y a le modèle de convention parce qu'on en a fait un paquet. En lui demandant d'accepter de faire le travail du tagage et en s'engageant à ne pas attaquer la commune si jamais on considère que la couleur n'est pas exactement la couleur telle qu'elle était au départ. Mais il n'y a plus de convention automatique de tagage. Et chaque commune qui prend avec la société. Mais si vous avez une société qui travaille bien et n'est pas trop chaud.
Et d'ailleurs, sur l'interdit aux chiens, je pense que le sous-panneau, il serait bon de même de l'enlever maintenant, que l'arrêter, je ne sais pas, c'est peut-être un arrêté qui doit dater d'il y a 20 ans, je sais.
Oui, puis je me rappelle que ce Perrault, j'ai une grosse difficulté parce que les arrêtés de circulation permanent, c'est la métropole, et les arrêtés de stationnement permanent, c'est la mairie. Alors le chien, il faut qu'il circule. Donc je pense que le plus simple, c'est peut-être d'enlever interdit aux chiens.
Voilà. Et je pense
aussi. Interdit aux
chiens. Automatiquement.
Je pense aussi qu'il serait peut-être intéressant de commencer à penser. À supprimer également les panneaux à l'entrée du village sur le partenariat qui n'existe plus depuis 10 ans au moins avec la commune du Bénin.
Non, c'est pas Genève.
Mais il n'y a plus de partenariat et je crois qu'ils ne veulent plus être partenaires d'ailleurs non plus là-bas. Si c'est juste
il me
pour dire, on n'est pas.
Vous les avez fait enlever.
C'est parce qu'il y en a dans le bureau. Dans le bureau.
Ah, il y en a
dans
le bureau. D'accord.
C'est vous, sinon, que
vous avez. Ils sont restés très longtemps. Enfin,
dans le bureau qui est là-bas à droite, il y a un petit par terre. Donc,
ils sont remplacés par des panneaux sur l'extinction lumineuse.
D'accord. Tiens, attends, pour la question, on va faire des questions dans l'autre sens. On a des panneaux, donc voisins vigilants, et les communes de Quincieux et de Chastel ont participation citoyenne. Qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas prendre la participation citoyenne par rapport aux voisins vigilants?
Ça n'existait pas à l'époque.
Parce que.
À l'époque, vous l'avez pris, si ça existait.
En fait, le dispositif qui était proposé de participation citoyenne, c'est quelque chose qui a été fait. En fait, c'est quelque chose qui a été fait par le gouvernement. À l'époque, pour contrer le principe de voisin vigilant qui, lui, avait pris de l'essor et marchait bien. le principe de participation citoyenne, on avait considéré, on avait étudié, puis on avait trouvé que le principe de voisin vigilant était plus porteur, puis bon, ça n'a pas vraiment pris, hein, je crois. Donc, dans certains quartiers, je crois qu'au manoir, ils sont un peu. Ça marche un petit peu. Peut-être vers chez vous.
Oui,
je connais rien. Et puis c'est tout, en fait.
Quelques-uns,
ça n'a pas vraiment pris sur la commune.
Ça a plutôt un intérêt, ça a plutôt un intérêt de communication.
Voilà, dissuasif.
Dissuasif.
On trouvait les panneaux plus. Peut-être plus. Non, enfin, voilà.
Ok, merci beaucoup.
Ok, merci. On a fait le tour.
Bonnes vacances à tous.
Merci.
Secrétaire. Joris Renaud, d'accord. Je lisais Renard, je me disais, mais ça va pas.
C'est le PV.
Ah, le PV, c'est tout le monde qui le signe ?
Oui.
Ah, d'accord. Le PV, c'est. Tiens.
Merci. Aussi ou qu'il faut ou pas
ouais, là aussi. Donc Philippe.